France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec le docteur Nasio.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous m'avez manqué. Oui, vous m'avez manqué parce que c'est ensemble que nous avons lancé l'année dernière cette magnifique émission consacrée à l'inconscient. Je tiens à remercier les très nombreux auditeurs qui m'ont adressé des messages émouvants, touchés qu'ils ont été par les histoires poignantes que je faisais revivre. Comme vous le savez, cette année, je serai à l'antenne un dimanche par mois pour vous parler de ma passion. La passion de psychanalyser. La passion d'entrer dans l'âme de celui qui va mal. Essayer de vivre ce qu'il vit. Découvrir la mauvaise image qu'il s'est fait de lui-même et l'aider à la modifier. Vous me connaissez, quand je vous parle, je ne m'adresse pas à vous tous, mais à chacun de vous personnellement. Oui, enseigner, et c'est ce que je fais en cet instant, enseigner n'est pas seulement transmettre des connaissances. Non, je voudrais faire plus. Je voudrais vous inciter à réfléchir sur vous-même et engager avec vous un dialogue fécond. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression et vous montrer ce que vit une personne quand elle se déprime. Je vous raconterai l'histoire de Boris, victime d'un burn-out, et vous verrez que dès notre premier rendez-vous, le regard du patient sur lui-même a changé. Après mon récit, je répondrai comme d'habitude aux questions que m'ont posées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté ce podcast sur la dépression. Je vous rappelle que les prochains épisodes de notre émission L'inconscient sont disponibles en podcast. Vous pouvez les écouter et enregistrer vos questions sur la page l'inconscient.franceinter.fr.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
La dépression. Je ne cesse d'étudier et d'approfondir cette maladie depuis mes années d'internat, depuis 1964. Dans le service de psychiatrie où j'ai préparé mon certificat de spécialité, j'ai eu la responsabilité du suivi des personnes âgées déprimées. J'entends encore mon chef de service me dire, je devais avoir 23 ans, « Nasio, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous occuper de la consultation des femmes âgées malades de dépression. » Je me revois à l'hôpital, vêtu de ma blouse blanche, j'adore la blouse blanche, traversant la salle d'attente à 8h du matin, salle déjà remplie de petites dames rabougries et tristes. Souffrant d'insomnie, comme beaucoup de déprimés, elle se levait à l'aube, n'ayant qu'une seule idée en tête, se rendre au rendez-vous avec le docteur. Je me souviens très bien de la pièce minuscule où je recevais ces femmes en désarroi, l'une après l'autre, durant toute la matinée. En les écoutant, j'étais impressionné de voir que nombre d'entre elles semblaient fâchées. Certes, elles étaient déprimées et tristes, mais d'une tristesse rancunière. À cette époque, je ne m'attardais pas sur cette aigreur pourtant évidente. C'est seulement beaucoup plus tard que je pus réaliser combien, à la surface de la tristesse suinte la rage, la rancœur et la haine. J'ai compris peu à peu que pour traiter la dépression, il fallait amener le déprimé à reconnaître son ressentiment contre celui, souvent le partenaire, un proche ou un ami qui l'aurait trahi. Rage que le déprimé finit par retourner contre lui-même. Tout à l'heure, en vous racontant l'histoire de Boris, je reviendrai sur la tristesse haineuse du déprimé. Mais je voudrais partager avec vous un autre souvenir de jeunesse et vous faire sentir combien le thème de la dépression m'accompagne non seulement depuis le début de ma pratique hospitalière, mais aussi depuis le début de ma pratique psychanalytique. Je me souviens que ma toute première patiente, Katia, que j'ai reçue dans mon cabinet le 4 janvier 1965, vous voyez, c'est une date que je n'oublie pas, était une malade bipolaire, c'est-à-dire souffrant d'accès de dépression, pôle 1, en alternance avec des accès d'excitation maniaque, pôle 2. La bipolarité est une des formes les plus graves de la dépression. J'ai suivi Katia pendant 4 ans, jusqu'à mon départ pour la France. C'est une femme d'origine suisse d'une 50aine d'années, sans enfant, venue me consulter, accompagnée de son mari. Celui-ci, un homme de petite taille, parlant l'espagnol avec un fort accent bernois, se sentait totalement désemparé devant les accès dépressifs de son épouse et ses nombreuses tentatives de suicide. Mais ce qui le minait le plus, comme il arrive souvent au conjoint du malade bipolaire, ce n'était pas les accès dépressifs de sa femme, mais ses accès d'excitation maniaque. Lorsque, par exemple, elle se levait au milieu de la nuit pour repeindre les murs de la cuisine, ou encore pour faire entrer dans la maison des clochards avec lesquels elle se livrait à des relations sexuelles sans tenir compte de la présence du mari. Sachez que le travail que nous avons accompli durant ces 4 ans a énormément aidé Katia. Alors que très tôt, j'ai dû lui prescrire du lithium, j'ai arrêté la médication au cours de la 2e année de la cure. En me souvenant de Katia, je vous avoue, je suis très ému, parce que nous avions une très belle relation humaine. Je pense que la qualité de notre échange a joué un rôle essentiel dans l'amélioration de son état. Pour l'anecdote, je vous raconte que le jour de notre dernière séance, en 1969, Katia, toute gênée, m'a offert un gâteau suisse aux pommes qu'elle avait spécialement préparé pour me remercier et me souhaiter un bon voyage pour la France. Vous le voyez, la dépression, quelles que soient ses variantes, a toujours suscité en moi l'envie de la comprendre, de la théoriser et de la soigner. Mais qu'est-ce que la dépression? Quand dirons-nous qu'une personne est déprimée? Et je me permets de vous poser à vous la question. Êtes-vous déprimé? Vous n'imaginez pas le nombre de patients qui déclarent être déprimés, être dépressifs ou avoir une déprime sans savoir exactement ce que ces termes veulent dire. Soyons précis. Un déprimé est un malade qui présente les signes typiques de la dépression. Un dépressif désigne, en revanche, quelqu'un qui est d'humeur triste et prend toujours les choses du mauvais côté. Et puis, nous avons la déprime, qui n'est qu'un coup de cafard passager que nous pouvons tous avoir un jour ou l'autre. Mais je voudrais définir clairement la dépression. La dépression est une maladie qui consiste en un dérèglement des émotions. Les émotions tristes prédominent anormalement sur les émotions agréables. La tristesse envahit la vie du malade et l'empêche d'aimer et de travailler comme d'habitude. Quels sont donc les signes de la dépression ? La première manifestation d'une dépression est bien évidemment une tristesse anormale sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant. Commençons par dire ce que est la tristesse en général. La tristesse est un sentiment, et le sentiment d'avoir perdu ce qui comptait pour moi et qui aujourd'hui me manque. Être triste, c'est sentir que j'ai perdu ce que j'aimais. Or, la tristesse dont souffre le déprimé est une tristesse très différente de la tristesse normale. Nous avons tous éprouvé la tristesse normale, mais nous n'avons pas tous éprouvé la tristesse dépressive. La tristesse normale, parfois difficile à supporter, est le plus souvent momentanée. Elle ne nous empêche pas d'aimer nos proches, de continuer à travailler et de garder l'estime de nous-mêmes. La tristesse dépressive, en revanche, est une tristesse pesante, anxieuse, qui s'installe en nous et nous isole du reste du monde. Comme toute tristesse, la tristesse dépressive est le sentiment d'avoir perdu, oui, mais c'est le sentiment d'avoir perdu à cause d'un autre et aussi à cause de moi-même. C'est pourquoi la tristesse dépressive est toujours teintée de rage contre celui qui nous a lésés et de rage contre nous-mêmes de nous être laissés duper. Il faut se faire à cette idée que le déprimé, tout en étant triste, se fâche facilement, il est énervé, irascible, susceptible et difficile à vivre. Le deuxième signe caractéristique de la dépression est la rumination négative. Le déprimé tourne et retourne dans sa tête le pourquoi de son malheur et de l'injustice dont il s'est croit victime, tout en se lamentant sur sa propre nullité. « Si j'en suis là, se répète-t-il sans cesse. Si j'en suis là, c'est à cause de ce salaud de Jacques qui m'a lâché. Mais c'est aussi ma faute de m'être laissé faire. Je suis un imbécile. » Voilà comme il parle. Plutôt, voilà comme il se parle. Un troisième signe de dépression est le désintérêt. Le déprimé délaisse son partenaire, ses enfants, son travail et ses loisirs. C'est le moment où il déclare qu'il n'a envie de rien, ni d'amour, ni de sexe, ni de voir personne. Il s'ennuie et l'existence lui est devenue insipide. Il a même perdu les goûts des choses simples. Manger, dormir, faire ses courses ou retrouver ses amis. Anesthésié qu'il est par la tristesse, il ne perçoit plus à l'intérieur de lui-même l'élan d'espérance et d'enthousiasme qui habituellement nous pousse à aller de l'avant. Ces trois signes majeurs de la dépression, que sont la tristesse rancunière, 1, la rumination négative, 2, et le désintérêt, 3, s'accompagnent d'autres troubles que je vais mentionner en vous esquissant un portrait rapide de la personne déprimée. Quand la tristesse rancunière domine, quand la rumination négative envahit la tête, quand on n'a plus envie de rien, que l'on se sent très fatigué et ralenti, quand on a le sentiment d'avoir raté sa vie à cause des autres et de soi-même, que des idées noires traversent l'esprit, quand on perd l'appétit et le sommeil, et surtout, quand cet état pénible dure plusieurs semaines, on peut en conclure qu'il s'agit bel et bien d'une dépression et qu'il faut alors consulter un professionnel. Devant ces portraits du déprimé que je viens de faire, vous avez peut-être l'impression d'une pathologie lourde. C'est exprès que j'ai forcé le trait pour rendre chaque signe plus éloquent. Mais dans nos consultations, la dépression adopte des formes plus atténuées. D'autant que les patients qui nous consultent pour la première fois prennent déjà des antidépresseurs prescrits par leur médecin généraliste.
L'inconscient avec le docteur Nasio.
Si maintenant vous me demandiez, mais d'où vient la dépression ? Je vous répondrai qu'à l'instar de la plupart des troubles mentaux, la dépression est provoquée par des causes génétiques, neurobiologiques, psychologiques et psychosociales. Plus récemment, on a même envisagé une cause immunitaire de la dépression. Concernant la cause génétique, disons que jusqu'à ces jours, on n'a pas encore identifié le génome de la dépression. Pour ce qu'il en est de la cause neurobiologique, la dépression résulte d'une défaillance de la neurotransmission de l'influx nerveux. Remarquons tout de suite que la neurotransmission peut être rétablie grâce non seulement aux antidépresseurs, mais aussi, et les neuroscientifiques en sont les premiers surpris, grâce à un échange régulier, chaleureux et empathique entre le déprimé et son thérapeute. On comprend combien le traitement de la dépression doit être une co-thérapie qui associe médicaments et psychanalyse. Venons-en maintenant aux causes psychologiques de la dépression. Nous distinguons une cause récente qui déclenche la dépression et une cause lointaine qui prédispose à la dépression. La cause récente est le plus souvent le choc d'une terrible désillusion. La cause lointaine est le plus souvent un traumatisme infantile tel l'abandon, la maltraitance ou l'abus sexuel. Le déprimé est donc une personne qui, étant enfant, a probablement été abandonnée, maltraitée ou abusée. Une fois devenu adulte, il arrive au futur déprimé, attention, au futur déprimé, pas au déprimé, parce que là nous sommes avant la dépression. Donc, avant la dépression, le déprimé a subi un traumatisme. Et ce même patient, futur patient, je dirais, il arrive une chose étonnante, pour ne plus se sentir faible, puisqu'il a eu ce traumatisme, il se gonfle de l'illusion d'être grandiose. C'est curieux, mais c'est ainsi. Celui qui va se déprimer est déjà, avant sa dépression, un sujet très fragile qui s'imagine être très fort. Mais attention, il s'imagine être très fort à une condition, qu'il se sente valorisé par un partenaire amoureux. Un partenaire amoureux, ce n'est pas nécessairement une femme ou un homme. Un partenaire amoureux, ça peut être pour moi mon travail. Je suis passionné dans mon travail. Et ces partenaires amoureux m'entretiennent dans l'illusion d'être tout-puissant. Je travaille depuis 30 ans dans la même société, je suis aimé, je me sens valorisé. Et donc je suis dans l'illusion d'être tout-puissant. Si pour une raison ou une autre l'amoureux s'en va, c'est-à-dire je cesse le travail ou ma femme me quitte, le ballon de l'illusion se dégonfle et la dépression se déclare. Je pense ici à ce patient qui, et ton bébé avait été abandonné puis adopté. Voilà un traumatisme. Quand je le vois en pleurs devant moi, déprimé depuis quelques jours, après qu'un soir, en rentrant du travail, il découvre la maison vide et réalise, fou des douleurs, que sa femme l'a quitté. Quand je vois ce patient si accablé, je me dis que sa dépression a été déclenchée non seulement par le départ de sa femme, mais surtout, écoute bien, parce qu'en perdant sa femme, il a perdu l'aiguillon de son illusion d'être fort et au-delà, son sentiment d'exister. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Sans cette béquille qu'est l'amour narcissisant venant de sa compagne, mon patient ne croit plus en lui, il n'existe plus et s'effondre. Oui, cet homme tombe en dépression, non seulement parce qu'il a perdu ce qu'il avait, sa femme aimée, mais surtout parce qu'il a perdu ce qu'il était. Je devrais dire parce qu'il a perdu l'illusion qui lui donnait la force d'être ce qu'il était. Dans un chagrin d'amour normal, par exemple, on perd ce qu'on avait, mais on ne se déprime pas. Dans un chagrin d'amour malade, on perd ce qu'on était et on se déprime. Dans la vie normale, l'être n'est pas atteint. Dans la dépression, l'être est atteint. Comment agissons-nous avec un patient déprimé? Pour répondre, je vais vous raconter l'histoire de Boris. Boris est un homme de 50 ans, marié, père de deux garçons et responsable de production dans une grande entreprise du CAC 40. Quand il vient me consulter, il est dans un état de dépression aiguë, très abattu, angoissé et lassé de tout. Il pense que son épuisement est dû à un excès d'activité professionnelle. Il est convaincu qu'à force de brûler toute son énergie au travail, il a fini par tomber en dépression. C'est ainsi qu'à l'instar d'autres patients, Boris étiquette sa souffrance du terme à la mode de burn-out. Après l'avoir entendu me parler avec beaucoup d'animosité du conflit douloureux avec son directeur et ami qui venait de le muter sèchement, je lui ai demandé s'il avait déjà vécu des conflits aussi pénibles, et en particulier s'il avait souffert des séparations déchirantes. J'appris ainsi que lorsqu'il avait 3 ans, son père était parti de la maison pour fonder une autre famille à l'étranger et qu'il ne l'a jamais revu. J'appris aussi que, jeune adulte, Boris avait déjà été déprimé à la suite des 2 trahisons inqualifiables. La première, commise par Isabelle, son grand amour de jeunesse, qu'il avait quitté pour un ami du couple. Et l'autre, trahison, par Julien, son meilleur copain et associé, qui l'a trompé en affaires. Un mot sur l'apparence physique de Boris. En les voyant devant moi, j'étais surpris par le contraste entre son allure de vieux rocker, d'homme endurci qui n'aurait peur de rien, et son regard triste et tendre de petit garçon apeuré. Ici, je voudrais vous dire l'importance pour le psychanalyste que je suis de savoir observer avec acuité le visage de la personne qui me parle et capter au fond de son regard le petit enfant qui vit toujours en lui. Le philosophe Emmanuel Levinas disait savoir visiter le visage de l'autre. Expression que j'ai traduit par savoir sentir l'humanité de l'autre dans son visage et vibrer au rythme de son inconscient. Je me dis que nous offrons notre visage à celui qui nous regarde. Et sans nous en rendre compte, nous lui révélons ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Étonnamment, nous révélons à l'autre ce que nous sommes, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Mais revenons à notre première rencontre avec Boris. À la fin de la séance, j'ai fait ce que je fais d'habitude avec chacun de mes nouveaux patients. Je conclus le premier entretien en lui annonçant que j'ai beaucoup de choses à lui dire. J'avance alors une parole qui, fréquemment, produit un effet thérapeutique, c'est-à-dire une parole qui surprend le patient, le bouleverse et change déjà, dans le premier entretien, son regard sur lui-même. Une parole suscitant l'adhésion du patient qui réplique souvent « C'est ça, c'est exactement ça ». Qu'ai-je dit à Boris ? Je lui ai dit deux choses importantes. J'ai corrigé d'abord son idée du « burn-out » qu'il avançait pour expliquer sa dépression. Et je lui ai parlé aussi de sa difficulté à encaisser les coups durs de la vie sans tomber en dépression. Nous tous encaissons à un moment ou à un autre les coups durs de la vie, mais nous ne nous déprimons pas forcément. Avec des mots simples, opportuns et avec beaucoup de tact, je lui ai dit que sa dépression n'était peut-être pas due à une surcharge de travail, mais à une douloureuse déception. Quelle déception ! Lorsque son directeur, qu'il aimait et admirait comme un père, lui notifia sa permutation avec un jeune collègue, il a vécu cette décision, non pas comme un changement de poste, mais comme un abandon. Le lâche abandon venant d'un homme qui avait beaucoup compté pour lui et qui maintenant le décevait cruellement. Je lui ai dit aussi, toujours à la fin de l'entretien, que derrière l'homme déprimé, je voyais un enfant très dépendant, se croyant trop fort, et qui aujourd'hui était abattu et amer parce qu'il se sentait trahi et abandonné. Je vous précise que j'ai préféré ne pas lui communiquer ce que j'avais pourtant en tête, à savoir que finalement son histoire avait été jalonné par 4 abandons. Le départ du père, qui pour moi est la cause première de sa dépression. Rappelez-vous, la cause lointaine qui prédispose à la dépression, c'est-à-dire un traumatisme. Eh bien, le départ du père a été le traumatisme d'abandon pour Boris, cause première de sa dépression. Deuxième abandon, l'infidélité d'Isabelle. Troisième abandon, l'escroquerie de Julien, son copain. Et aujourd'hui, quatrième abandon, la déloyauté de son directeur. Pendant que je parlais, Boris m'écoutait dans un silence ému. Je l'ai senti très touché, mais aussi soulagé de m'entendre lui dire ce qu'il savait déjà confusément, mais sans l'avoir réalisé. Ce jour-là, nous nous sommes quittés, moi avec le sentiment d'avoir été utile, lui avec l'envie de commencer au plus tôt sa cure. Une fois la cure engagée, je vous raconte que j'essayais d'accomplir deux missions essentielles. La première mission était de dévitaliser chez Boris les racines toujours actives de son illusion de ses quatre-forts, illusion qui était le terreau de sa dépression. Si Boris ne s'était pas cru si fort, il ne se serait pas déprimé. Je me disais alors que si nous arrivions ensemble à dévitaliser son illusion narcissique, nous réussirions à écarter le risque d'une nouvelle désillusion et partant d'une nouvelle dépression. La seconde mission que je m'étais fixée consistait à sensibiliser Boris à aimer les personnes qui comptent pour lui, mais sans la crainte fébrile d'être abandonné. Je voulais qu'il comprenne qu'aimer quelqu'un avec l'angoisse qu'il me quitte induit chez lui l'envie de me quitter. Voilà les deux axes qui ont orienté la cure de Boris, qui a duré 4 ans. Je vous raconte que les symptômes de sa dépression ont disparu progressivement et que nous avons arrêté les antidépresseurs 1 an après avoir commencé l'analyse. Au moment où nous nous sommes vus pour la dernière fois, Boris était très enthousiaste avec le projet de fonder sa propre société de conseil en informatique. Le cas de Boris nous montre combien une illusion peut être nocive si elle est hypertrophiée. Plus folle est l'illusion, plus dure sera la chute. Mais détrompons-nous. Attention, nos illusions nous sont vitales. Pour qu'il y ait vie, nous avons besoin d'amour. Et pour qu'il y ait amour, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de nous illusionner. Tout immatériel qu'elle soit, l'illusion a le pouvoir de nous attirer vers l'aimer, l'étreindre, nous donner à lui et engendrer la vie. Une illusion peut faire naître un enfant. L'imaginaire crée le réel. En un mot, nos illusions nous sont nécessaires. Mais à condition d'accepter, attention, qu'elles ne se réalisent jamais comme nous l'avions rêvé. Comme me le disait souvent mon père, qui était un médecin humaniste, il me disait « Rêve, bats-toi comme un lion pour réaliser ton rêve et attends le résultat comme une souris. » Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la dépression.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec le docteur Nasio.
Ne partez pas. Après le disque, je vais répondre aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode en podcast disponible sur la page L'inconscient sur franceinter.fr.
Des accords, des éléments, on se demande où va le vent. Bientôt par lui-même, agacé. On se demande d'où l'eau s'écoule, quel sorcier guidera la foule jusqu'au point de la diviser. On se disait c'est long le temps, puis le temps parla de manquer. Tant que la ligne d'horizon n'aurait pas bougé, on ne partirait pas d'ici. On accueillerait la prophétie au bord des piscines, à nos côtés. Odeur du temps acré et frontal. Comme une entaille dans l'air à cran. Qui n'aura eu vent du tournant. Qui fait que même le vent détale. Des accords, des éléments. Les feux bataillent avec le vent. Et l'eau s'est retirée. Il se dira qu'à la surface, la fin des temps fait du surplace. Écoutons-nous causer. On se disait c'est long le temps. Puis le temps parla de manquer. Contre le présent déferlant, surtout ne pas se rassembler, plutôt brandir des prophéties, tels des bouts de toile enflammés, puis s'étourdir sans se mêler, chacun dans sa nuit.
Bien, venons-en aux questions. Maintenant, c'est à vous de parler.
Bonjour, merci pour cette émission très intéressante pour moi, ayant dans mon entourage proche une personne atteinte de dépression longue et profonde. Alors voilà, je me demande pourquoi ou comment, par quel processus mental, on peut guérir de la dépression. J'entends bien que le traitement est double, à la fois médicamenteux et psychologique, avec l'accompagnement nécessaire d'une psychothérapie. Mais en fait, je me demande comment le fait de comprendre les causes et les origines de sa propre dépression pouvait permettre à la personne atteinte de dépression de guérir. Voilà, j'espère que la question était claire. Merci en tout cas.
Votre question est importante, Constance, parce qu'elle me permet de vous dire à vous et de dire à tous les auditeurs qu'en effet, on ne guérit pas la dépression, ni aucune maladie psychologique d'ailleurs, par la simple connaissance. Ce n'est pas parce que je connais les causes de ma maladie que je vais m'améliorer. Certes, la connaissance des causes aide énormément pour la guérison. Mais ce qui compte, c'est qu'en connaissant les causes, se produisent deux phénomènes qui vraiment vont aider à la guérison. D'abord, en sachant quelle est la cause, je vois surtout l'homme, la femme ou le petit enfant que j'étais dans la scène traumatique. Et, me voyant, je comprends que je dois changer, que je dois être autrement et éviter ainsi la répétition du conflit à l'origine de la dépression. En connaissant la cause, je me rends compte que je répète le même comportement malheureux qui a contribué au conflit déclencheur de la dépression. Deuxième phénomène important, c'est qu'au moment de connaître la cause, analyste et patient, chacun à sa façon, doit essayer de revivre l'émotion qui était au cœur de la scène traumatique. C'est ce qu'on appelle la réviviscence de l'émotion traumatique. Et surtout, il faut que cette réviviscence se fasse à deux, en présence du thérapeute. Et si le thérapeute peut aussi, lui, la revivre en lui-même, c'est encore mieux.
Oui, bonjour docteur Nasio, je suis Céline. Et je m'intéresse beaucoup à votre émission que je suis. Alors, j'espère que j'aurai l'occasion d'entendre la réponse peut-être à ces questions. C'est au sujet de la dépression. le burn-out, enfin le faux burn-out. Vous dites en fait qu'une des voies thérapeutiques, un élément à prendre en compte dans la thérapie des personnes dépressives, c'est de dégonfler le moi grandiose. Et alors, j'aurais voulu savoir comment le thérapeute fait pour dégonfler petit à petit ce moi grandiose, d'autant que j'avais l'impression que dans la thérapie, le psychanalyste fait attention à toujours maintenir une certaine estime narcissique du patient. Enfin, voilà, comment vous faites pour dégonfler ce moi grandiose? Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Céline, merci pour votre question, car effectivement, pour traiter une dépression, il faut dégonfler le moi grandiose qui a joué un rôle si néfaste dans le déclenchement de la dépression. La dépression se déclare presque toujours chez une personne qui était trop imbue d'elle-même. Maintenant qu'elle est déprimée et que nous travaillons ensemble, nous devons revenir à ce moi grandiose qui lui a été fatal. Je voudrais vous donner l'exemple d'une patiente qui était déprimée et avec laquelle j'ai travaillé. Je vais vous montrer en acte comment je fais pour dégonfler le moi grandiose. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. S'appelle Émilie, la patiente. Ce qui vous arrive, lui dis-je, c'est que par moments, vous avez été et vous continuez à être très exigeante, très ambitieuse et parfois même dévorante. Oui, dévorante, parce que vous vouliez trop avoir. Vous rêviez de tout avoir et ensuite vous avez été déçu de ne rien avoir. C'est comme si vous ne saviez pas vous contenter de ce que vous avez. Et j'ajoute sur le mode de la complicité, et ça c'est pour nous, et j'ajoute cette phrase adressée à Émilie, comme si nous ne savions pas être humbles. Voilà, je voulais signaler ça, que en disant nous, nous ne savions pas être humbles, en disant nous, je ressens en moi l'avidité de ma patiente, de vouloir tout posséder. Et en même temps, je lui parle comme si elle se parlait à elle-même, sans avoir honte de se reconnaître vorace. Si je lui avais lancé, si je lui avais dit « Émilie, vous êtes trop possessive, vous manquez d'humilité », elle aurait été vexée et elle m'aurait immédiatement rejeté. Par contre, si j'utilise le « nous », je fais mienne sa voracité. Et du coup, Émilie accepte de la reconnaître comme sienne. Donc, si vous me demandez comment dégonfler le moi grandiose, il ne faut jamais s'adresser à la patiente comme si c'était un reproche. Il faut qu'elle comprenne que cette moi grandiose ne lui a pas fait du bien et à préparer sa dépression.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Nous poursuivons, chers auditeurs, avec les questions que vous m'avez laissées sur notre site L'inconscient.
Bonjour docteur Nasio, je m'appelle Claudine, j'ai 53 ans et j'ai fait un burn-out en 2010. Un matin, ma tête m'a dit de me lever et mon corps a été dans l'impossibilité totale de bouger. Depuis, je suis sous antidépresseurs. Malgré plusieurs tentatives de sevrage en m'aidant de thérapies telles que l'hypnose, le MDR, j'ai fait un an de psychothérapie, la méditation, etc. Lorsque je baisse le traitement, avec toutes ces aides et avec l'aide de mon médecin traitant, bien sûr, il n'y a rien à faire, je retombe en dépression. Alors ma question, c'est est-ce que je suis condamnée, entre guillemets, à vivre avec un traitement qui me convient malgré tout, est-ce que je suis bien avec, ou qu'une analyse est ma seule porte de sortie. Je n'en ai pas peur, mais il faut juste trouver évidemment un bon thérapeute. Voilà, je vous remercie.
D'abord, Claudine, je me permets de vous corriger sur le mot « sévrage » des antidépresseurs. Les antidépresseurs, et je le dis pour l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, les antidépresseurs ne sont pas de médicaments addictifs, c'est-à-dire qu'ils ne induisent pas une addiction. Autre chose importante concernant les antidépresseurs, beaucoup de personnes croient que les antidépresseurs affaiblissent ou diminuent le tonus, comme peuvent le faire effectivement les anxiolytiques. Les antidépresseurs, sachez-le, sont des stimulants, stabilisateurs de l'humeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dépression, c'est un dérèglement anormal des émotions. Les émotions tristes prédominent sur les émotions agréables. Eh bien, les antidépresseurs stabilisent l'équilibre entre les émotions tristes et les émotions agréables. Bien. Claudine soulève un problème qui est celui du fait que si elle arrête les antidépresseurs, et c'est bien de les arrêter à un moment ou un autre, elle a le sentiment que la dépression rechute. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas condamnée à la dépression, Claudine, ni à la récidive de la dépression. Je le dis de façon positive, mais aussi authentique. Il faut persévérer à chercher le thérapeute qui vous convient, quelle que soit sa technique. Et si c'est nécessaire de continuer avec les antidépresseurs, vous continuez avec les antidépresseurs. Mais si vous me permettez, je pense que vous rechutez parce que vous arrêtez les antidépresseurs, mais cela est dû au fait que vous n'approfondissez pas suffisamment le problème de l'angoisse. Je ne vous connais pas, mais je suis sûr que vous êtes une personne avant tout angoissée et qui, à force de s'angoisser, a fini par se déprimer. Je dis ça parce que je pense que le travail avec votre thérapeute, c'est d'abord de résoudre ou d'attaquer ou de diminuer le niveau d'angoisse. C'est l'angoisse qui est à la base de votre dépression. C'est mon avis, permettez-moi de le dire. Donc, continuez à chercher un thérapeute avec lequel travailler le fond de la dépression, et si c'est nécessaire, parce que la vie continue et il faut que vous soyez bien pour affronter la vie, prenez les antidépresseurs qui vous ont été prescrits.
Bonjour docteur Nazio, merci pour votre émission. Est-ce à dire que en fait le burn-out n'existe pas? Moi j'en ai fait un depuis 3 ans, mais que en fait derrière il y a toujours une autre cause de dépression. Merci beaucoup docteur.
Bien sûr que le burn-out existe et qu'il est très important de reconnaître les conditions qui ont conduit à ce burn-out. Souvent, la maltraitance au travail. Cependant, chaque fois que quelqu'un souffre à cause du travail, s'il vous plaît, il ne faut jamais oublier son histoire et les événements qui ont fragilisé sa personne. La maltraitance au travail existe, mais pas tous ceux qui ont été maltraités se dépriment. Il y a certaines personnes qui peuvent amortir le coût de la maltraitance. D'autres, pas. Ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on travaille avec un patient qui souffre d'un burn-out, s'il vous plaît, occupez-vous de son histoire. La question, c'est la personnalité, c'est le terreau de la dépression et le terreau du burn-out. Et je dirais, faites-le c'est la meilleure façon d'aider cette personne qui a eu le burn-out pour qu'il puisse affronter demain d'autres difficultés dans le travail.
Bonjour à tous, je m'appelle Sonia. Merci beaucoup pour cet épisode sur la dépression, Dr Nasio. Je voudrais avoir votre réaction sur le fait que chez beaucoup d'artistes, on trouve l'état dépressif précédant l'état créatif. C'est-à-dire que très très souvent, avant l'entrée dans un processus de création, l'artiste, il passe d'abord par une petite descente aux enfers. Et dans ces états, on ne va pas trouver forcément l'aigreur, mais le vide. C'est plutôt le sentiment qui en ressort. Voilà, je voudrais avoir votre réaction sur ces cas de figure. Merci beaucoup.
Sonia, votre question est très intéressante. Effectivement, j'ai constaté moi aussi, soit chez mes patients artistes, j'en ai, soit en lisant le journal intime d'un artiste, qu'un état dépressif léger précède l'acte créatif et parfois lui succède. C'est très intéressant. C'est-à-dire, il y a une tristesse avant, puis il y a la création, puis il y a la tristesse après. Tristesse, création, tristesse. Je pense que la tristesse d'avant, c'est le temps d'incubation de l'acte créateur. Il faut du temps pour créer. La création n'est pas une compulsion, bien qu'elle peut l'être, mais c'est toujours précédé d'un moment de préparation, d'incubation. L'acte créateur est un sursaut d'énergie qui dit à la tristesse d'avant, j'ai produit, j'ai acquis. Et après la production, il y a une autre tristesse, c'est la tristesse de la détente. Ça me fait rappeler ce que disaient les Grecs, qu'après le coït, il y a la tristesse. C'est pas tout à fait la même chose, mais nous sommes dans le même type de schéma. Il y a un moment de forte excitation et ensuite il y a un moment de détente, de sérénité, de repos qui ressemble beaucoup à la tristesse. Voilà, merci à tous pour votre intérêt et vos questions. Je voudrais remercier Audrey Ripouille et Josepha Lebrun pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Alison Asclisi à la technique. La semaine prochaine, vous retrouverez Clotilde Le Guil qui vous parlera de nos rêves et du deuil. Ce prochain épisode est déjà en ligne. Vous pouvez l'écouter en podcast sur notre page l'inconscient franceinter.fr et poser vos questions, soit par note vocale, soit sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 26 février, le dimanche 26 février, pour vous présenter comment je travaille en tant que psychanalyste.